18h30 à Paris et comme promis, on retrouve Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Anne, bonsoir à tous, bienvenue. RFI Soir, coup d'œil au programme de ce mercredi, ça commence dans 30 minutes, avec le journal de 19h de Gilles Moreau. Et puis juste après, la France qui se penche sur les pratiques illicites de l'adoption internationale. Depuis les années 50, 120 000 enfants ont été adoptés à l'étranger, beaucoup dans des conditions irrégulières. Un rapport interministériel a été rendu ce mercredi. Détail à suivre dans le rendez-vous de la rédaction. Nous irons ensuite au Liban, où la population du sud du pays est menacée par des armes enfouies. On estime en effet qu'un obus de missile sur 10 atterrissant côté libanais lors des affrontements entre le Hezbollah et Israël. Un obus de missile sur 10 n'explose pas. Les autorités lancent une campagne de sensibilisation. 19h30, dans une heure, Afrique Soir, la première édition, Zéphirin Quadio, aux manettes. Mais d'abord, l'heure est au débat.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Le salon des seniors s'est ouvert ce mercredi à Paris. Alors les seniors, voilà un grand enjeu de société, particulièrement leur place dans l'emploi. C'était un point majeur, par exemple, de la réforme des retraites en France, avec cette équation difficile, allonger l'âge de départ, alors que les seniors sont nombreux à être poussés dehors. Notre question ce soir, emploi, à quel âge sommes-nous trop vieux? Comment être senior et occupé de hautes responsabilités? Y a-t-il des discriminations? Et puis comment faire changer les mentalités? Soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio. Gilles Gâteau, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC. Face à vous, Mélissa Petit, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste des seniors, fondatrice de Mixing Génération, qui est un bureau d'études sur le vieillissement. Et puis, je peux citer votre ouvrage, Les retraités, cette richesse pour la France. Bonsoir Hervé Sauzet.
Bonsoir.
Notre troisième invité, fondateur et directeur de l'Institut français des seniors. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, première question, Hervé Sauzet, à partir de quel âge on est considéré comme senior? Ça veut dire quoi être senior?
Alors, d'après les seniors eux-mêmes, parce qu'on a fait une grosse étude sur l'emploi et les seniors qu'on peut trouver sur notre site pour ceux que ça intéresse, l'Institut français des seniors, on a posé la question à quel âge vous vous sentez senior dans l'entreprise. Vous avez l'impression qu'on vous considère comme senior. Ce qui est important, ce n'est pas l'âge qu'on a, c'est l'âge qu'on a l'impression que les autres vous donnent. Et la réponse, c'est 50 ans. Donc, à partir de 50 ans, on sent qu'il commence à y avoir des changements doux ou brutaux dans le regard de ses collègues ou de ses patrons. À 52 ans, vous dites, t'as prévu de partir à quel âge?
C'est 50 ans, c'est-à-dire, pour en France, 14 ans avant officiellement l'âge de départ à la retraite.
Oui, sauf que c'est l'âge de départ officiel, ouais. Mais que l'âge réel de départ dans l'entreprise, Gilles Gâteau me contrôlera peut-être, mais c'est entre 58 et 59 ans, en tout cas dans le monde du privé. Et alors, à quel âge est-on trop vieux dans l'entreprise? Il y a deux sujets. Il y a celui à quel âge on est trop vieux pour rester dans l'entreprise, qui est un premier sujet qui est celui du maintien des seniors qui sont en entreprise actuellement, dans leur poste, en gros, qu'on ne les sorte pas, justement, un peu brutalement, 4 ans avant la retraite. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, une deuxième question, c'est comment on est trop... Enfin, est-ce qu'on est trop vieux pour être recruté comme senior, alors même qu'on est senior, pardon, comme salarié, alors que, par exemple, on est au chômage.
C'est intéressant, vous avez commencé par évoquer le regard des autres. C'est celui-ci qui est le plus fort, finalement, que le regard qu'on a soi-même sur son rapport à l'emploi quand on est senior?
En tout cas, c'est celui qui est le plus douloureux. Parce que quand vous avez 55 ans ou 50 ans et que vous êtes en bonne santé aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, vous avez toutes vos capacités intellectuelles, vous n'avez pas l'impression d'être un demeuré en technologie, et parce que vous les pratiquez tous les jours. Et dans l'entreprise, on commence à vous trouver très vieux. Je lisais avant de venir un article sur la considération des seniors dans le secteur de la tech, les fameuses start-up, qui rappelait qu'il y a 60% des chefs d'entreprise, des PME qui ont plus de même 60 ans, mais qu'il y a 1% seulement des salariés des start-up, ouais, qui sont des seniors. Et il y avait des seniors qui racontaient qu'il y avait un passé très techno chez AOL, chez Microsoft, etc., et qu'il y a 52 ans est arrivé en finale dans un processus de recrutement, mais on leur disait ça va coincer avec les autres, vous êtes un peu vieille, c'était une dame, vous êtes un peu vieille, et puis non, vous comprenez, vous avez eu tellement de responsabilités que là, vous allez vous ennuyer. Donc en fait, il y avait un agisme. ce que les sociologues, hein, comme Mélissa, vous je pense, s'appellent un agis, c'est-à-dire une discrimination par l'âge.
Donc vous allez vous ennuyer. Donc ça veut pas dire que vous n'allez plus être compétent parce que vous êtes trop âgé et que vous ne maîtrisez pas les outils technologiques, que vous n'êtes pas assez performant, non ?
Ça peut être un peu les deux.
Voilà. Mélissa Petit, votre œil de sociologue là-dessus, parce que c'est très intéressant. Est-ce que ce sentiment, justement, d'autrui envers le senior est de plus en plus fort ? Est-ce que l'âge, justement, à partir de 50 ans, on est senior ? Est-ce que c'est un âge qui ne cesse de progresser, je dirais, dans le sens où peut-être avant, on était senior plus tard ?
Peut-être qu'au-delà de la progression, le avant, je pense qu'on a, de toute façon, à partir du moment où, à partir de la seconde partie de carrière, on considère qu'on est senior en emploi après 45 ans, ce sont des bornes politiques publiques et d'entreprise. Mais c'est vrai que ce que dit Hervé Sauzé est important, c'est le regard des autres et cette question de l'âgisme, les discriminations liées à l'âge, et avant des discriminations, les représentations sociales négatives liées à l'âge, que ce soit quand on parle d'âgisme, c'est à la fois les seniors ou les plus jeunes, mais c'est encore plus prégnant pour les seniors, parce que en effet, ces représentations sociales ont des impacts sur la discrimination, notamment la discrimination à l'embauche, qui a été évoquée par Hervé. Et le point fort, c'est parce que à quel âge est-on vieux ? Là, ce qu'on voit bien dans les premiers éléments, c'est qu'en fait, ce sont les autres qui considèrent que la personne est vieille. Et pas l'individu, même s'il se considère senior à 50 ans, en soi, l'individu est en effet compétent, actif, dynamique, déterminé dans ce qu'il est dans son poste. Il peut y avoir des problématiques, de pénibilité en emploi, mais c'est surtout l'autre qui va désigner la personne. Et ce qui est un peu insidieux dans ces questions de représentation sociale, c'est quand l'individu, la senior, a intégré ces discriminations. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, considérer et dire que « Ah bah oui, je suis trop vieux, à quoi ça sert d'aller faire cette formation ?» alors qu'il peut potentiellement en avoir envie. Et c'est là où c'est assez complexe, mais on voit bien que ces représentations en entreprise et puis après dans la sphère médiatique sont particulièrement violentes pour les individus.
Et est-ce que c'est un sentiment qui est de plus en plus fort ? C'est ça ma question.
Oui, c'est de plus en plus fort, mais parce que
parce qu'on est dans un jeunisme sociétal.
Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ce soit de plus en plus fort, parce que
Hervé Sauzé,
comme le chômage diminue, des entreprises qui ne trouvent personne se mettent finalement à accepter de considérer le recrutement de seniors. Pardon, Mélissa.
Oui, ce que vous dites est intéressant, en effet, sur le recrutement de seniors. Après, n'oublions pas les fins de carrière complexes, les temps partiels, notamment plus importants pour les femmes, les ni en emploi ni à la retraite, qui sont quand même une bonne partie d'une population. Donc, c'est... je dirais que les deux se valent en tous les cas. Donc, mais malgré tout, cet agisme, il est présent. Et puis, il y a un rapport de l'ONU qui montre comment aussi... Alors, c'était l'agisme en général, hein, pas qu'en emploi, mais montre aussi que dans des études internationales, on voit qu'il est tout aussi important. Et qu'il y a, ce que je rajoute, hein, c'est pas qu'il y ait que des représentations sociales et qu'on considère que tel senior est incompétent ou trop cher. C'est qu'ensuite, ça impacte des discriminations sur liées à l'âge en emploi. Donc, comme je disais, difficulté de recrutement, quoi, en tous les cas, de trouver un emploi, mise dans des situations intermédiaires de façon plus précoce. Et puis, pour rebondir, pour renvoyer la balle à l'APEC, c'est aussi dans cette, je pense, dynamique que vous avez créé la communication sur ce sujet.
La campagne qui a été lancée en fin d'année dernière.
Oui. Là, je m'avance un peu, mais.
Ouais, non, la transition est toute faite, Gilles Gâteau. J'allais poser une autre question, mais allons-y sur cette campagne.
Non, moi,
une personne de dos avec une étiquette collée périmée sur le marché du travail à partir d'eux, et là, il y a une date, et la mention, cette étiquette vous choque, est inscrite.
Voilà. Et en dessous, changeons de regard.
Ouais.
Moi, je souscris complètement à ce qui a été dit sur le fait que ce qui permet de répondre à la question qu'est-ce que c'est qu'un senior ou à partir de quand on l'est, c'est beaucoup le regard des autres, en l'occurrence le regard de son employeur, de son management.
Ça rejoint ce que disait Mélissa.
Le regard du recruteur qui n'est pas forcément en phase avec le ressenti finalement de chacun d'entre nous. Et c'est particulièrement vrai chez les cadres où on a une population qui n'est pas comme d'autres travailleurs soumis à des conditions de travail physiquement pénibles ou usantes, où il y a vraiment de l'usure physique et qui conduit parfois à ce que effectivement les départs effectifs à la retraite se fassent avant l'âge de 64 ans. Ce n'est pas le cas chez les cadres. On part plutôt en moyenne déjà avant l'allongement, plutôt autour de 63 ans en moyenne, et plutôt en bonne santé, et plutôt expérimenté, qualifié, diplômé, et malgré cela, mis à l'écart. C'est le grand paradoxe de la situation dans laquelle nous sommes, où d'un côté on a des entreprises qui ont des besoins de compétences et qui peinent à recruter, elles le disent, et de l'autre on a un vivier de compétences qui est importante. Si je parle des cadres, il y en a plus de 100 000 qui sont inscrits à France Travail aujourd'hui, après 55 ans, des cadres de plus de 55 ans, plus de 100 000. Le taux de chômage des cadres en moyenne à 3,5%, on est quasiment au plein emploi, on peut le dire, chez les cadres. Pour les cadres de 55 ans et plus, taux de chômage 6,8%. Et là, vous ne trouvez pas de fondement objectif ni dans leurs compétences, ni dans leurs qualifications, ni dans leur envie ou leur besoin de travailler. Vous trouvez la source de ça, effectivement, dans toute une série de représentations négatives qui les écartent et qui les mettent à l'écart.
C'est uniquement culturel.
C'est pas que culturel, parce que ça va trouver des fondements et des représentations que nous, à l'APEC, ça fait partie de notre travail, pas seulement de communiquer pour attirer l'attention et interpeller finalement un peu tous les acteurs de l'emploi sur cette forme de discrimination, appelons-la comme ça, hein, d'agisme, comme ça a été dit, mais c'est aussi de faire bouger ces représentations. Ce qu'on entend souvent de la part de recruteurs qui écartent des CV ou des propositions de candidats qu'on peut leur faire quand on les accompagne dans des recrutements qui sont déjà très expérimentés. Ah oui, mais non, là, 58 ans, il va partir bientôt, dans 6 ans, il n'est plus là, je ne vais pas former et investir dans quelqu'un qui ne sera plus là dans 6 ans.
Donc, et le mot expérience n'a pas de sens ? Est-ce qu'ailleurs, à l'étranger, le mot expérience a davantage de sens ?
Alors,
en France,
le terme de senior, y compris en France d'ailleurs, parfois connoté très positivement. Un consultant senior, c'est plutôt un consultant qui a justement cette expérience. Et donc, le côté expérience senior va être plus valorisé. Ce qu'on voit autour de nous, notamment en Europe, c'est quand même que les taux d'emploi des seniors, notamment après 60 ans, mais même dès 55 ans, est inférieur chez nous que ce qu'il est dans la plupart des autres pays. Donc,
très inférieur.
On est nettement, on va dire, moins ouvert. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur ces représentations, par exemple, il ne va pas rester assez longtemps, je ne vais pas le recruter, investir en lui parce qu'il ne va pas rester assez longtemps, donc je vais prendre un plus jeune qui, lui, a beaucoup plus de chances de ne pas rester pendant les 6 ans en question, parce que la mobilité aujourd'hui chez les cadres et la durée moyenne d'un CDI, c'est à peine plus de 2 ans chez les cadres plus jeunes. Donc voilà une représentation qui n'a pas de fondement rationnel quand on la décortique, quand on la met à regarder la réalité. Même chose sur l'idée, il ne va pas savoir faire avec les nouvelles technologies. Les gens qui ont 55 ans aujourd'hui, ils avaient 20 ans au moment où Internet est arrivé. Ils ont fait toute leur vie professionnelle avec Internet, avec tous ces outils.
Oui, mais il y a une évolution qui a été très rapide et très forte.
Et à laquelle ils se sont complètement adaptés.
À laquelle ils se sont complètement adaptés. On ne peut pas, je vais poser la question frontalement, évoquer une performance moins importante de la part de certains seniors à l'heure du numérique, à l'heure des progrès technologiques aujourd'hui. Hervé Sauzet.
Pour être honnête quand même, moi-même je suis senior, donc je peux le dire, je pense que Gégator a raison de dire qu'il n'y a pas de différence en termes de compétences générales. En revanche, ce qu'on observe, ce que disent les entreprises, c'est que quand survient un problème dans le maniement des outils technologiques aujourd'hui, numériques, le jeune va trouver tout seul assez vite la solution et le senior va mettre un peu plus longtemps. Donc il va être un peu plus...
C'est un frein.
Ouais, c'est un petit frein pour ce sujet-là, mais là on est. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les seniors présentent un certain nombre d'avantages. Il ne s'agit pas de les opposer aux jeunes, ça serait absolument stupide. Il y avait une campagne du ministère du travail, cette fois-ci, du temps de Gérard Larcher. Vous voyez, ça date un peu, qui disait « je fais l'amour plus longtemps, plus souvent que vous », en parlant des jeunes, enfin, comparé aux jeunes, c'était absolument débile, bon, pour montrer qu'ils étaient vifs. Voilà. Mais je crois qu'il y a...
Ils faisaient du roller aussi à l'époque,
je crois. C'était absolument stupide. Mais ce que les seniors peuvent apporter à l'entreprise rapidement, me semble-t-il, c'est, en dehors d'un savoir-faire dont vous avez parlé, c'est de l'expérience, il y a un savoir-être. Il y a un temps d'expérience humaine, disons, qui fait que ils vont savoir plus facilement régler un problème avec un client compliqué ou qui pose problème. Il y a deuxième qualité, ils ont un réseau. Leur histoire professionnelle font que je connais un tel, je vais l'appeler, etc., dans les réseaux, dans un métier. Ils ont l'expérience, on l'a dit. Et puis, c'est des agents de tranquillité sociale dans les entreprises, parce que leur carrière est derrière eux. Ce n'est pas eux qui vont pousser le voisin pour prendre sa place ou être très ambitieux. Donc, ils sont là beaucoup plus pour servir et transmettre leur plaisir, si j'ai gâteau est d'accord, il a l'air de l'être, c'est de transmettre. Moi, j'ai embauché une fois dans l'entreprise où j'étais auparavant, le groupe Bayard, j'ai embauché une personne de 60 ans pour diriger la régie publicitaire. Il avait été un très grand directeur de pub avant dans d'autres groupes de presse. Et là, il me dit, mais moi, je prends mon pied, il parlait comme ça, parce que je transmets à des gens qui ont 25 ans toute mon expérience, tout mon carnet d'adresses, tout mon réseau et toute la technique qu'il faut avoir, enfin le savoir-être qu'il faut avoir pour vendre de la publicité. Et puis, dernier avantage, c'est le goût du travail. Ouais. Le goût du travail bien fait, c'est la génération qui met un point d'honneur à être à l'heure. S'ils ont la goutonnée, qu'ils ont un peu de vieux, ils viennent quand même. Et si l'entreprise leur est fidèle, parce qu'ils les gardent, est sympathique parce qu'ils les embauchent, ils ont conscience que ce n'est pas facile pour l'entreprise, compte tenu du contexte que vous avez rappelé. Et donc, il va y avoir de la gratitude vis-à-vis de cette entreprise et une grande fidélité. Dans l'étude dont je parlais tout à l'heure, on s'aperçoit que 75% des 50-64 ans ont travaillé plus de 10 ans dans la même entreprise.
Le débat du jour sur RFI, Romain Ozoui.
Emploi, à quel âge sommes-nous trop vieux? La question qu'on pose ce soir, alors que s'est ouvert ce mercredi le salon des seniors en France, et que cette question de la place des seniors dans l'emploi est un enjeu, notamment en France. Il y a eu cette récente réforme des retraites où évidemment la place des seniors a été beaucoup évoquée. Hervé Sauzet, que l'on vient d'entendre, fondateur et directeur de l'Institut français des seniors. Mélissa Petit, sociologue, spécialiste des seniors, fondatrice de Mixing Génération, bureau d'études sur le vieillissement. Et puis Gilles Gâteau, directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres. Alors Hervé Sauzet, là, vous nous avez peint un tableau très favorable aux seniors en nous disant que finalement, ils avaient leur place pleinement dans l'emploi, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas donné les chiffres, mais vous avez évoqué la tendance, Gilles Gâteau. 33% des 60-64 ans qui sont en emploi en France, c'est largement, effectivement, en dessous de la moyenne européenne, qui est de 46,6%.
Et le double en Allemagne.
Mélissa Petit, vous avez évoqué l'âgisme, donc le fait qu'il y ait finalement une discrimination à l'égard des plus de 50 ans. Mais quand on entend Hervé Sauzet, j'ai envie de répondre, pourquoi cet agisme aujourd'hui?
Parce que c'est inscrit, je dirais, vous parliez de culture tout à l'heure, c'est inscrit dans la culture et dans la culture aussi des politiques. Si on revient vraiment pas très en arrière, dès les années 70-80, il y a cette culture de la sortie précoce du marché de l'emploi avec les pré-retraites dès 55 ans, qui s'arrête après, mais qui reste et qui s'ancre en fait dans les politiques publiques, dans les cultures des entreprises, et donc dans le fait, dans un imaginaire collectif, de considérer que après 55 ans, on est vieux, et donc à mettre en dehors de l'emploi. Et les plans sociaux qui existent encore, en fait, vont défavoriser les plus de 55, en termes, quand je dis défavoriser, on va plutôt les favoriser à les mettre hors de l'emploi, se dire comment on crée quelque chose de plus vertueux dans l'entreprise avec l'ensemble des générations. Parce qu'en fait, le maillage d'aujourd'hui, il est, je dirais, trop assis sur quelque chose de passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de futur du travail. On parle peu de futur du travail dans un mélange multigénérationnel en se disant, en effet, chaque individu qui participe à l'entreprise a ses propres expériences et ses compétences pour pouvoir être accompagné et faire grandir l'entreprise. Il y a peut-être un point complémentaire que je voulais évoquer. Vous parliez de performance juste avant, et on voit bien en fait comment on est emprunt aussi de cette société accélérée, de la vitesse qui veut toujours tout aller plus vite et qui oublie peut-être aussi ou peut-être qui ne veut pas regarder la vulnérabilité, et donc, ou les vulnérabilités. Et quand je parle de ça, c'est aussi que malgré tout, avec l'avancée en âge et certains métiers, il y a des risques aussi professionnels et de santé qui touchent certains métiers, mais aussi, de fait, un peu plus les plus de 50 ans et les plus de 55 ans. Les risques physiques, les risques psychosociaux, le fait d'avoir porté une charge lourde toute sa vie, eh bien, de fait, ça va jouer aussi sur la santé en tant que senior. Donc, c'est aussi comment on accompagne. Alors, celle-là, on se dédouane des cadres, mais il peut y avoir d'autres, des facteurs de risque, mais comment on accompagne les conditions de travail pour que chacun puisse continuer à travailler.
Gilles Gâteau, est-ce qu'aujourd'hui, il y a uniquement le prisme de la productivité qui est pris en compte dans l'emploi aujourd'hui ?
La preuve que non, c'est qu'il n'est en rien démontré qu'après 50 ans ou après 55 ans, on serait moins productif. Ouais. Donc, on est sur des formes de, à la fois de représentation et, c'est vrai, de gestion, finalement, de l'emploi. Je souscris à ce que Mélissa vient de dire sur le fait qu'on a été drogué en France aux pré-retraites, hein, disons-le. On a du mal à en sortir complètement. Alors, on n'est plus dans la grande période des pré-retraites FNE où les grandes entreprises venaient chercher au ministère du Travail leur quota de FNE tous les ans, c'est plus ça, mais ça continue d'exister d'une façon un petit peu plus sournoise. Je le dis, j'ai été DRH hein, dans des grandes entreprises, j'en ai fait des ruptures conventionnelles
c'est un tiers, de, surtout un tiers après des ruptures conventionnelles concernent des plus de 50 ans.
Voilà, on sait bien que.
Il y a clairement une volonté de pousser hors de l'emploi
avec leur accord.
Voilà, que ce phénomène peut exister et que quelque part, il y a une forme de consensus social qui s'est fait autour de cette question, aussi bien avec les organisations syndicales. Quand il y a des grands plans sociaux, bah, finalement, faire partir les plus anciens qui, pour certains, sont peut-être pas mécontents de partir parce que justement, usure physique et tout, ça peut être un élément du consensus social. Or, la situation aujourd'hui n'est plus la même, notre démographie n'est plus la même, et aujourd'hui, si on ne considère pas la place au travail après 55 ans, 60 ans, ce qui est en train d'être fait en matière de recul de l'âge légal de retraite, et parce que voilà, on a des équilibres financiers du régime de retraite, si ça ne se traduit pas par une augmentation du taux d'emploi, on voit bien qu'on sera dans une équation impossible. Et c'est vrai au niveau macroéconomique, et ça doit être vrai au niveau microéconomique. Moi, je suis frappé de voir des responsables d'entreprise, des DRH, des chefs d'entreprise, considérer que, ah oui, mais moi, mon taux de senior là, augmente beaucoup, ça ne va pas, il faut que je rajeunisse ma pyramide des âges. Je me dis, mais non, la pyramide des âges, elle va vieillir partout, parce que tout simplement, la part des seniors va augmenter partout. C'est la tendance de notre société, et si elle ne se reflète pas dans le monde du travail, alors on aura des tensions de plus en plus vives et de plus en plus insupportables.
Alors l'enjeu démographique, on va l'évoquer parce qu'il est important, mais le temps tourne. On va avec vous continuer de démonter finalement les raisons aujourd'hui qui éloignent les seniors de l'emploi. Pas assez productifs, non, vous nous avez dit. Trop cher ? Je vais citer un chiffre, la rémunération moyenne des plus de 55 ans en France, supérieure effectivement de 17% à celle des 25-54 ans.
Oui, c'est vrai, plus cher que les autres parce que plus expérimentés, plus avancés dans leur carrière, mais deux choses. D'abord, si vous regardez le salaire médian après 55 ans, il est un peu plus élevé, mais à peine plus que les 45-55 ans. C'est-à-dire quand on fait la comparaison avec les 25 ans, 50 ans, elle est un peu biaisée, il faut prendre la tranche qui est juste au-dessous.
C'est un peu grand.
Et là, on s'aperçoit que les écarts existent, mais ne sont pas si importants que ça. Et deuxième élément, pour recruter, une majorité d'entreprises aujourd'hui, depuis ces dernières années, sont amenées à réviser l'offre de salaire qu'elles ont faite initialement parce qu'elles ne trouvaient pas de candidats. Donc les entreprises elles-mêmes sont capables d'être un peu flexible et de payer un peu plus. Et enfin, les seniors, en tout cas les cadres que nous accompagnons à la PEC, ils sont en vérité très lucides sur cette réalité de marché dans laquelle ils sont, et ils sont prêts à faire des concessions sur leur rémunération. Ils ne mettent pas forcément la barre au même niveau que l'emploi qu'ils ont perdu. Donc tout ça peut s'ajuster finalement. Je ne dis pas que ce n'est pas un obstacle potentiel, mais c'est un obstacle qui peut se négocier au moment d'une embauche où chacun fait une part du chemin.
On a bien compris que le mal, finalement, entre guillemets, sur cette question des seniors et de l'emploi, vient d'autrui. Hervé Sauzé, un mot sur cet enjeu, parce qu'à un moment, il va falloir prendre des décisions. D'ici à 2030, une personne sur six dans le monde aura 60 ans ou plus. On fait quoi? On change les mentalités? Comment? Parce qu'il y a un vrai défi à relever.
C'est une équation en plein inconnu, mais je dis un mot juste sur la question des salaires, des revenus, qui a été évoquée par Gilles Gâteau. Et je vais dans son sens. Dans l'étude qu'on a faite, dont je parlais tout à l'heure, on a posé la question, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour retrouver un boulot si vous êtes chômeur? Et ceux qui ne sont pas encore chômeurs, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire si vous deveniez chômeur? Sur la question des salaires, 80% des chômeurs aujourd'hui, de 50 ans et plus, disent « je suis prêt à accepter une baisse de rémunération qui peut aller jusqu'à 20%. » Ce n'est pas rien. Après, ils acceptent tout, de changer, d'être formés, de changer de métier, même de baisser de qualification. Il y a une chose qu'ils ne veulent pas changer, et on peut les comprendre, à leur âge, c'est changer de région. Parce qu'ils sont propriétaires de leur maison, qu'ils ont leur famille, leurs enfants, leurs amis, etc.
Donc
ça va tout à fait dans le même sens.
Les seniors trop chers, c'est une autre fausse bonne raison. L'enjeu démographique.
L'enjeu démographique, oui, il y a 60% des, 40% des Français aujourd'hui qui ont plus de 50 ans, comme le Gilles Gâteau, il va falloir s'y habituer dans tous les domaines de la vie, de la société, y compris dans les entreprises. Dans les solutions qu'on pourrait imaginer, il y a une chose qui est très peu connue, que Gilles Gâteau connaît sûrement très bien, et qui est le faible pourcentage de la retraite progressive. On peut prendre sa retraite, on a évoqué la question des retraites qui oblige à se poser la question de l'emploi, et la retraite progressive permet de partir à temps partiel. Dans la même enquête, les gens disent que quand on leur dit « qu'est-ce que vous voulez ?», ils vous disent « je voudrais une retraite en sifflet, un peu à temps partiel, un, parce que je peux être un peu fatigué, et deux, parce que psychologiquement, la retraite, c'est un changement de vie majeur. Je passe de tout à rien, dans leur esprit en tout cas. Et donc, y aller progressivement, c'est plus agréable. » Et le système de la retraite progressive permet ça, parce que vous travaillez, mettons, à 50% de votre temps, vous êtes payé 50% de votre salaire et vous touchez 50% de votre retraite.
Et économiquement, c'est viable, c'est intéressant.
Pour un certain nombre d'entre eux, quand on écarte et qu'on a des revenus pas trop mauvais, c'est effectivement viable, c'est pas viable pour tout le monde.
Et pour les entreprises?
Le problème, c'est qu'il faut l'accord des chefs d'entreprise et qu'ils ne le disent pas. Dans la même enquête, les seniors nous disent « je ne connaissais pas le système de la retraite progressive et si je l'avais connu, on leur demande, si vous l'aviez connu, vous leur demandez oui ». Les DRH, pardon, monsieur Gâteau, mais ne connaissent pas bien ce système. Ça complique la vie des entreprises, parce que j'ai un gars qui était à 100%, qui passe à 50, il faut que je le remplace par deux. Allez, c'est trop compliqué, allez, je te fais une rupture conventionnelle. Ouais. Salut. Et il y en a un sur deux qui part sans pot de départ. Ouais. C'est très grave. Quand on parle sans pot de départ, ça veut dire
retraite
on
anticipée.
Ne ferme pas la porte correctement.
Retraite anticipée ou retraite progressive.
Progressive, c'est
plutôt
que
retraite, donc, plutôt que retraite anticipée,
qui
c'est ça que je veux dire.
Qui a mal habitué les esprits à partir plutôt que l'âge normal.
Mélissa Petit, ça va être le mot de la fin, je pense qu'il nous reste moins de deux minutes. Je disais, est-ce qu'il faut changer les mentalités?
C'est essentiel de changer les mentalités, mais d'une façon...
Mais comment?
Ça ne s'impose pas.
Dans une société de la longévité, en fait, c'est difficile de vous dire comment, mais en tous les cas, si on s'intéresse donc à faire de la médiatisation différente, quand on intègre de plus en plus de plus de 50 ans et puis après des retraités dans la société, dans les publicités, quand on change les mots, quoi. Je pense qu'il y a aussi un vrai sujet de mots, quand on accompagne, il y a la question de la formation aussi, quand on va valoriser la formation et qu'on va, parce qu'il y a une diminution de la formation après 50 ans, quoi, du taux de formation, donc c'est aussi comment on propose et on ne se dit pas à personne de 55 ans qu'elle est trop vieille pour se former, donc on va lui proposer, qu'on lui propose aussi, comme disait Hervé, peut-être de la retraite progressive, ou en tous les cas, quand on accompagne, et puis quand à un moment donné, on se dit que c'est important, en dehors des individus, quoi. Je ne réponds pas tout à fait à votre question.
Vous êtes sociologue, j'attendais que vous me parliez d'évolution, des mentalités, de la société. Il nous reste 45 secondes.
L'évolution des mentalités.
Cette évolution. Ou est-ce qu'il faut imposer des quotas, simplement?
On ne peut pas imposer des quotas, ça n'a jamais marché nulle part.
Okay. Peut-être juste un point qui me semble important et qui ne répond pas à votre question, je sais. Mais c'est, si on reste dans la situation, ça va faire plus de précarité sur l'emploi des seniors, c'est-à-dire que les individus vont se précariser et que ça aura une répercussion à la retraite, qui devront potentiellement peut-être travailler à la retraite pour compléter leurs revenus.
Finalement, il n'y a pas d'autre choix que de changer face au vieillissement de la population, tout simplement.
Qui va être, et puis que changer nos regards.
C'est une question qu'on peut pas résoudre. Et il faut échanger nos regards. On en vient aux mentalités. Merci beaucoup, Mélissa Petit. En tout cas, je retiens parmi les pistes pour mieux intégrer les seniors dans l'emploi et continuer à bien les intégrer, cette piste de départ à la retraite progressive que vous avez évoquée, Hervé Sauzé. Merci beaucoup, fondateur et directeur de l'Institut français des seniors. Merci beaucoup, Mélissa Petit, sociologue, spécialiste des seniors, fondatrice de Mixing Génération. Merci beaucoup, Gilles Gâteau.
directeur général de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Merci à Florence Pons qui était à la préparation de ce débat comme chaque soir, Laurent Philippot à la réalisation, merci à la documentation de Radio France Internationale et puis restez à l'écoute de la Radio Mondiale, car dans 30 secondes, ce sera l'heure des RFI Soir.